Voilà, je vous rappelle que le CAC 40, lui, est stable, plus 0,01% à 3103 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
L'arrivée du Quintet à Auteuil, premier le 3, deuxième le 14, troisième le 18, quatrième le 6 et cinquième le 2. 3, 14, 18, 6 et 2. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet, bien sûr. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison, un des villages les plus célèbres du monde, Saint-Tropez.
Le petit port de Saint-Tropez, perdu au fond de son golfe, est condamné à une ruine fatale. Il est à peu près certain que le village restera dans l'oubli. Guide de voyage du 19e siècle.
Dominant l'histoire. Comme dans tous les villages de Provence, on y joue à la pétanque et on y boit un pastis sur la place des Lys. On y regarde des bateaux devant un café glacé chez Sénéquier. On y dort à l'hôtel de la Ponche. On y danse au Papagayo et on s'y baigne sur la plage de Pamplonne. Bref, on y trouve tout ce que peut offrir un port ordinaire de la Côte d'Azur. Comment Saint-Tropez est-il donc devenu un des villages les plus célèbres du monde? L'endroit où, bien avant l'arrivée de Brigitte Bardot, Georges Sand, Maupassant, Colette, Signac, Matisse, Picasso et Dunoyer de Segonzac étaient venus écrire et peindre le soleil et la mer d'une des plus belles baies de Méditerranée. L'endroit aussi où en 1952, venus de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian et Juliette Gréco avaient choisi d'établir leur quartier d'été sur la presqu'île de Saint-Tropez.
C'est midi à Saint-Tropez. Dans des yachts, on se promène et on regarde les bateaux. C'est l'heure où le quai ressemble aux Champs-Élysées par un après-midi de soleil, où l'on s'entasse à la terrasse de chez Sénéquier pour y boire le café glacé, où l'on fait le bilan de la journée, où l'on discute pour savoir si ce soir on fait la jouant, si on va jouer à Cannes, si l'on monte plus prosaïquement danser au son du piano. Mécanique de Palmyre. Le monde est petit, l'Europe est petite, la France encore plus petite. Saint-Tropez, alors, vous savez, c'est tout petit. Hein. Tout petit, tout petit.
Henri-Jean Servat, bonjour.
Bonjour. Alors,
c'était l'extrait d'un film de Paul Paviot, Saint-Tropez, devoir de vacances, avec un texte de Boris Vian, lu, on vient de l'entendre, par Daniel Gélin. C'était en 1952, donc il y a 50 ans, et déjà Saint-Tropez était connu. C'était un peu l'annexe, on vient de l'entendre, de Saint-Germain-des-Prés, en quelque sorte.
Mais curieusement, Saint-Tropez était connu à cette époque-là parce que c'était le bout du monde. Tous les germano-pratins qui faisaient les cinglés, les fous dans les caves et qui dansaient le bebop avec des grosses jupes gonflées, vous savez, par des mecs qui avaient confectionné des abat-jour, avaient trouvé cet endroit et l'endroit leur plaisait parce que justement c'était difficile d'y aller parce que personne n'y mettait les pieds et parce qu'on avait le sentiment quand on y arrivait au bout d'un cheminement délicat et très très compliqué à moins d'arriver par la mer qu'on était installé là pour l'éternité au bout du monde. Donc curieusement Saint-Tropez a été connu et célèbre au début parce que c'était un endroit de calme et plutôt désertique. Hein.
Alors connu et célèbre, vous venez d'écrire justement un livre, La Légende de Saint-Tropez, hein, tout ce qu'il faut savoir sur ce village très connu, dites-vous, universellement connu, mais dont on ignore beaucoup de choses finalement. Par exemple, l'origine du nom de Saint-Tropez. Moi, je ne connaissant personne qui se prénomme Tropez, je me demandais si ce Saint-Tropez existait.
Et oui, alors, mais vous savez que vous devriez aller faire un tour dans les écoles de Saint-Tropez. Il y a quelques gosses tropéziens locaux qui portent effectivement le prénom de Saint-Tropez,
ah oui,
qui s'appelle Tropez Gélinet, par exemple, un peu, ça existerait. Et ce sont le fameux Saint-Tropez était un centurion qui travaillait au service de Néron, qui s'est converti au catholicisme, donc Néron fou furieux, hystérique et cinglé, l'a fait décapiter, l'a placé sur une barque et la barque a été déportée, enfin c'est la légende qui raconte ça, est venue échouer sur la plage de Saint-Tropez. Alors pourquoi pas que c'était une tradition séculaire pour que on devait lui picorer, lui manger les cicatrices. On avait mis un coq avec un chien. Et en fait, ni le coq ni le chien n'ont mangé la tête du brave Tropé qui arrivait sur
ça
le quai.
Ça s'appelait Torpé d'ailleurs.
Oui, Torpé. Et avec un S, avec un Z. Et il s'est remis la tête. C'était peut-être plus facile à prononcer. Et il s'est recollé la tête sur la tête. Je veux dire, c'est Frankenstein au début. Il a marché sur le sable. Et donc, c'est pour ça que le nom est venu de là. Et on vend dans tout Saint-Tropé des bustes de Saint-Torpès. Donc, avec de gros, avec une grosse moustache de garde champêtre et puis des bijoux dans les cheveux, qui était le centurion romain qui est censé avoir découvert la ville. Et Bardot, qui m'a gentiment fait la préface de mon bouquin, raconte que c'est le Mistral qui venait de la mer qui avait déporté la barque jusque sur la plage. Or qu'en fait, Brigitte est adorable, mais le Mistral, c'est pas un vent de mer, je dirais, c'est un peu trompé, c'est un vent de terre. Le Mistral a plutôt attiré, mais le Mistral n'a pas poussé la barque.
Alors, vous parlez, on n'a pas le temps de développer toute l'histoire, parce qu'en fait, c'est une longue histoire. C'est devenu un village assez florissant jusqu'au 19e siècle, Henri Jean Servat, parce que je crois que c'était un port important. C'était une activité. Les Tropéziens étaient de grands corsaires, grands navigateurs.
Il y avait ces fameux bateaux qu'on appelait les tartanes, qui servaient à faire du commerce. Et ce qui est assez amusant, c'est que Marie de Médicis, qui était une princesse florentine qui devait épouser Henri IV, quand elle est venue en France, le bateau devait s'amarrer à Marseille. Il y a eu une tempête hallucinante et on a débarqué la grosse Marie de Médicis avec ses grosses jupailles et tout ce qu'on peut imaginer, et qui a pique-niqué sur la plage de Saint-Tropez, parce que le temps qu'on rafistole le gros bateau qui l'amenait là-bas. Donc il y a une espèce d'endroit comme ça, moi je trouve un peu béni des dieux, et un lieu où a soufflé l'esprit. Je pense qu'on va parler de tous les poètes, de tous les peintres qui sont venus s'installer là-bas et qui ont fait que le village a existé avant.
Effectivement, cela dit, il a existé grâce à eux, mais après le déclin du port, parce qu'il y a eu, bien sûr, la navigation à vapeur, les grands ports, Marseille, etc., qui ont concurrencé Saint-Tropez, qui a été un grand port. Et puis, brusquement, c'est une ville enclavée, vous le disiez, Henri-Jean Servat, un pas de train pour y aller. Et en tout cas, elle a été sauvée, justement, par l'apparition des tout premiers trains, qui ont permis, donc, aux premiers touristes de venir découvrir Saint-Tropez. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, à entendre les descriptions de Saint-Tropez entre la fin du 19e siècle et les années 30, vous allez voir, on voit comment ce village isolé s'est ouvert progressivement au monde. Et quel monde ! Alors, en 1887, d'abord, Guy de Maupassant, l'écrivain, navigue en Méditerranée et fait escale à Saint-Tropez, petit port joignable seulement par la mer, l'arrière-pays étant vraiment impraticable à l'époque. C'est là, dit-il, que commence cette région sauvage, sombre et superbe, qu'on appelle le pays des morts. Sans route, sans chemin, sans hameau, sans maison, Saint-Tropez, dit-il, est la capitale de ce petit royaume sarrasin. Mais Maupassant, en 1887, est frappé déjà par la beauté du lieu. Saint-Tropez, une de ces charmantes filles de la mer, dit-il, une de ces bonnes petites villes modestes, poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marin. Alors, une beauté sauvage qui va bientôt attirer les peintres, Signac, on l'a dit. Et en 1908, le jeune Dunoyer de Segonzac y débarque avec ses copains. « Nous y avons vécu et travaillé tout l'été, dit-il, dans cette merveilleuse lumière provençale qui fut pour nous une révélation. À cette époque, Paris ignorait systématiquement la Provence, l'été. On vous disait ironiquement, vous allez passer l'été au Sahara. » Alors, dans les années 20, de plus en plus d'écrivains, d'artistes de toutes nationalités viennent à Saint-Tropez, et parmi eux, Colette, bien sûr, qui achète une maison. « De la mer à la forêt, dit-elle, je bouge peu, sinon pour choisir entre la promenade et le bain, entre le vin rosé et le vin doré, entre le long jour et la nuit brève. » Dans sa maison, Colette écrit, bien sûr, et elle mitonne aussi les bons petits plats à l'ail pour ses amis, pas des moindres, Jean Cocteau, Francis Carcot, Joseph Kessel, etc. Mais dès 1932, tout de même, Colette se rend compte que Saint-Tropez déjà a changé. Dos nu, dit-elle, boîte à débardeurs truquée pour touristes riches, 200 autos de marque à partir de 5 heures en travers du port, cocktail, champagne sur les yachts à quai. Mais Colette préfère décidément l'autre Saint-Tropez qui, dit-elle, existera toujours pour ceux qui se lèvent à l'aube. En l'été 1939, alors qu'Hitler s'apprête à déclencher la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain Anaïs Nin découvre avec ravissement Saint-Tropez, sa douceur de vivre, sa liberté des mœurs et des corps aussi. Saint-Tropez, dit Tel était un paradis, une vie tahitienne, toute la journée en costume de bain, cuisine sous les arbres, eau limpide le jour, café animé le soir, tout le long du port, musique, danse. Il y avait, dit-elle, une intensité dans le plaisir, comme si nous savions tous que ce serait le dernier des beaux étés. Et puis, la guerre, mobilisation, tous les yachts ont disparu en une nuit.
Et les yachts qui ont disparu en 40 ont été remplacés en 44 par les barges de débarquement du débarquement en Provence. C'est à Pamplonne que ça s'est passé, Henri-Jean Servin.
Tout à fait. Les troupes alliées ont débarqué. Le grand débarquement des troupes en Provence a eu lieu sur la plage de Saint-Tropez, sur la plage de Bardot, la plage où va se baigner tout un chacun maintenant. Et il y avait un général qui s'appelle le général Patch, qui est arrivé avec évidemment les grosses barges. Et le grand boulevard qui mène à toutes les plages de Pamplonne s'appelle en hommage à personne ne sait, on appelle le boulevard Patch, je ne comprends pas pourquoi. C'est le nom du général américain qui commandait les troupes alliées lors du débarquement.
Et il a fallu attendre encore 10 ans pour que Saint-Tropez devienne le village le plus célèbre de la Côte d'Azur, grâce à une femme et grâce à un film de Vadim, tourné à Saint-Tropez. Le film, c'est « Et Dieu créa la femme », et la femme, c'était une orpheline de Saint-Tropez jouée par Brigitte Bardot, dont la beauté fascinait Kurt Jurgens.
Oh. J'apprends que vous allez me quitter pour partir pour Saint-Tropez.
C'est exact.
Mais qu'est-ce qui vous attire là-bas? Le petit protégé est maintenant marié, m'a-t-on dit.
Tu es heureuse?
Bien sûr.
Non. Tu n'es pas faite pour cette vie. Je te connais très bien, tu sais. Alors je répète ma question. Es-tu heureuse?
Ce que j'aime, je l'ai ici. La mer, le soleil, le sable quand il est bien chaud, la musique, le manger.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Tropez.
Et c'était Brigitte Bardot chantant la Madrague où elle s'est installée après avoir tourné « Dieu créa la femme ». Brigitte Bardot, qui n'a pas découvert Saint-Tropez, dites-vous, Henri-Jean Servin, mais qui lui a donné une renommée internationale.
Bien sûr. Je voulais avant dire 2 secondes pour prolonger ce que vient de dire mademoiselle auparavant. C'est que Colette, quand elle était à Saint-Tropez, c'était dément ce que faisait Colette. Oui. Elle se baignait comme Louis XIV à Versailles. Elle convoquait les journalistes et les gens sur la plage, elle se mettait dans des rideaux de salle de bain et elle rentrait dans l'eau applaudie, comme c'était une Vénus née de Londres. Elle avait...
Et vous dites qu'aucune rue ne porte son nom.
C'est pas très bien, mais c'était vraiment la première muse là-bas. Et donc Bardot, pour en revenir à elle, Bardot en fait a tourné le film en 55. Et Brigitte connaissait Saint-Tropez parce que son père et sa mère étaient propriétaires d'une maison rue de la Miséricorde dans laquelle les monsieur et madame André Bardot amenaient leur petite fille Brigitte et Mijanou et qu'elles toutes les deux là-bas passaient leurs vacances. Donc elles connaissaient l'endroit. Et quand en 1955, Bardot s'est retrouvé à Cannes avec Vadim et avec Raoul Lévy, leur producteur, et qui tentait d'arracher quelques argents pour obtenir de quoi faire le tournage, ils ont obtenu de l'argent de la Columbia, le film en couleur, et il fallait trouver un endroit sur la côte. Donc ils ont pensé spontanément à Saint-Tropez parce que Bardot le connaissait, parce que Vadim, 12 ans auparavant, à la fin de la guerre, pendant la guerre, il s'était caché avec sa famille dans les maquis voisins. Donc ils connaissaient ce petit port. Ils sont allés là-bas, mais ils habitaient à l'hôtel et ils ont découvert une vie de touristes. Il faut bien comprendre, quand ils tournent en 55 et Dieu crée la femme tous les deux, ils sont des touristes qui habitent à l'hôtel de l'Aioli en l'occurrence et qui n'ont aucune habitude, n'ont aucune familiarité avec le petit village, sinon le fait d'y venir de temps en temps en vacances avec leurs parents auparavant.
Il faut rappeler d'ailleurs que Bardot, à l'époque, n'était pas plus connu que Saint-Tropez. Et les deux, en même temps...
La conjonction des deux a été formidable.
Alors, ça fait, évidemment, la fortune de tous les hauts lieux de Saint-Tropez. Il y a les bars que vous citez, l'escale, Sénéquier, le célèbre Sénéquier, les hôtels, le Ponche, le Biblos, les boîtes de nuit, le Papagayo, puis alors les plages, le long de Pamplonne, toutes les plages, Tahiti, le Club 55, qui est né aussi dans des conditions invraisemblables.
Le Club 55, c'était le tournage, parce que le Club 55, pourquoi? Parce qu'en 1955, Bardot est venu tourner sur la plage, sous la direction de Vadim, le fameux Dieu créa la femme, les scènes du petit bateau à voile, vous savez, l'espèce de petit pointu qui brûlait, enfin, quand elle se baignait, quand elle se faisait renverser sur l'arbre mort par Christian Marquand, qu'elle flirte avec lui, et la fameuse séquence où elle va dans l'eau, une espèce de blouse grise qui se boutonne devant, et la blouse qu'elle a dû piquer à sa jeune sœur, 3 ans de moins qu'elle, est collée, on voit les seins, les plis, c'est insensé cette tenue. Et donc, en 55, il y a un brave mec qui est là, qui a une espèce de cabanon, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sandwichs pour l'équipe du film, et puis il refait des sandwichs le lendemain, et puis il fait griller un peu de poulet, et ainsi de suite. Et du coup, en souvenir de cette époque, il a fait le Club 55, mais je peux vous garantir, moi je me suis baigné l'année dernière en maillot de bain avec Ayagon, le ministre de la Culture qui était là, à chaque table, à chaque table, vous avez Lépineau, Léo Sen, Lécoulier, Sting, John Collins. Le Club 55, c'est sur le sable et les pieds parmi les coquillages en poussière, le plus beau gratte pratin du monde qui se fait rissoler sous le soleil en buvant du vin rosé.
Et puis les premiers seins nus hein, qui apparaissent dans les années 60, une tenue d'ailleurs qui scandalisait le plus célèbre gendarme du monde, Louis de Funès, alias Ludovic Cruchot, le gendarme de Saint-Tropez, en 1964.
Oh, je suis muté dans le vin avec un galon de plus. Maréchal des logis chefs. Ça va barder là-bas.
Ces bateaux, c'est merveilleux. Oh, ce que je suis contente. Attention,
tiens-toi, tiens-toi. Voilà les hommes.
Un accident ! Un accident !
Ça y est, à Tahiti, ça recommence.
Quoi ?
Qu'est-ce qui recommence ? Les encombrements ? Non, non, les nudistes, tous à poil. Passez-moi l'expression, mon adjudant.
Les nudistes, Cruchot, sur les oreilles. Il y a trop longtemps qu'ils me narquent. Rassemblez tout le monde. Allez ! Allez !
Chanson du film Le gendarme de Saint-Tropez, Geneviève Grade, Douyou, 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 Saint-Tropez, ça veut absolument rien dire en région
terroriste. Geneviève Grade, c'est la superbe blonde, et une petite rivale de Bardot qui joue Nicole, la fille de Ludovic Cruchot, bien entendu. Oui. Mais ça veut rien dire parce que l'origine, c'était une chanson qui veut dire Douyou, Douyou, enfin, How do you do? Oui. Comment va Saint-Tropez? How do, Saint-Tropez? Et puis, avec le parler provençal, un peu le pastis, un peu le soleil et tout, c'est devenu Douyou, Douyou, Saint-Tropez. Vous savez que l'idée du film est née à un scénariste qui s'appelle Richard Balducci, qui un jour s'est fait voler sa voiture. Alors qu'à Saint-Tropez, c'est une des villes plus sûr du monde, on n'y voit rien du tout et personne n'y a jamais été assassiné. Il a galopé à la gendarmerie et les braves gens étaient là, il faisait chaud, ils s'amusaient, ils faisaient des parties de cartes. Enfin, je me fais engueuler par les gendarmes de Saint-Tropez la prochaine fois, mais il n'y avait pas une ambiance dans une tension travailleuse particulièrement laborieuse. Du coup, en voyant toute cette bande qui était là, qui rigolait, qui s'amusait, que tout compte fait les nudistes ne paniquaient pas, contrairement à Cruchot et à Gerbert, il a eu l'idée d'écrire cette histoire qui est devenue un film mythique, je veux dire mythique.
Mais ça fait de la gendarmerie de Saint-Tropez qui vraiment n'est pas extraordinaire du tout, le lieu le plus photographié du village, et même d'ailleurs des lieux les plus photographiés de France.
Et vous savez qu'il y avait des gens qui étaient fascinés par le succès du film, qui demandaient à visiter la gendarmerie. Maintenant, elle est désaffectée. Il y a une autre plus moderne au milieu de la place de la Garonne, mais les gens qui voulaient rentrer dans la gendarmerie à l'époque en étaient réduits à faire des infractions pour pouvoir rentrer. Il y a des gens qui voulaient, ça leur plaisait, donc ils traitaient un flic de ceci ou de cela, un gendarme, pardon, et ils étaient admis à rentrer à l'intérieur parce que c'était interdit.
Alors à Saint-Tropez, hein, y a pas que les bars, la plage ou la gendarmerie. Hein, y a pas non plus que Brigitte Bardot. Il y a aussi des quantités de piliers de Saint-Tropez. Hein, vous les citez tous Annabelle Buffet, Gréco, Gunter Sachs, pas mal de têtes couronnées aussi.
François Sagan, une armada de.
C'est fou.
C'est pour ça que je trouve que Saint-Tropez est fascinant, c'est que comment ce petit endroit qui est au bout du bout du bout du monde, même si on le voit, c'est joli quand on arrive. Comment il a pu attirer tant de personnes? Comment il a pu cimenter le fait que
viennent se voir aussi. Et se faire voir.
Ah oui, mais écoutez, réfléchissez à une chose. Pourquoi Brigitte Bardot, qui était l'actrice européenne la plus traquée, la plus scrutée, la plus espionnée, elle a choisi de se cacher à Saint-Tropez? Parce qu'elle y habitait que quelques années plus tard. Elle a acheté la Madrague en 58. Là, elle était une star mondiale. Elle aurait pu aller s'installer au fin fond de la Creuse, je veux dire, ou dans les bocages vendéens. Elle est venue s'installer à Saint-Tropez pour se cacher. Et Saint-Tropez, c'est ce conglomérat hallucinant de gens de toute culture, de toute richesse, de toute couleur de peau, de tout sexe, si j'ose dire, qui font les fous ensemble, ou bien qui aussi réussissent à s'amuser, parce que c'est pas seulement une capitale pour faire les imbéciles. Plus
justement, il y a l'incontournable organisateur des grandes fêtes de Saint-Tropez, Eddie Barclay, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, le 26 juillet 1975.
En direct de Ramatuelle Saint-Tropez, lorsque je feuillette la Gazette de Saint-Tropez et du Golfe et que j'y lis les indiscrétions, l'éditorial de Françoise Partirier, je peux remarquer qu'il y a beaucoup de fêtes encore, nocturnes à Saint-Tropez, et qu'Eddie Barclay y participe souvent, ça on le sait. C'est l'heure du petit déjeuner pour vous ?
Oui, on vient de se lever, hein, faire un peu de bateau, j'ai une vingtaine d'amis à déjeuner, dans alors, beaucoup d'artistes, évidemment.
Oui. Qu'est-ce qui fait les frais de cette vie ?
Les frais, c'est moi. Non, mais je m'amuse beaucoup de faire des fêtes, j'en ai toujours fait toute ma vie, à l'occasion de sorties de disques, de lancements de films, et même de mes mariages, il faut bien le dire. Parce que j'en ai...
Il y en a eu combien ?
Il y en a eu cinq. Il y en a eu cinq, il y en a eu cinq, mon épouse est là, d'ailleurs, quelque part.
Ça a beaucoup changé ou ça reste ce que ça a été ?
Je pense que Saint-Tropez n'a pas changé du tout, au contraire. Et ça prend une expansion fabuleuse. Et une côte aussi fabuleuse.
Et oui, c'est pas donné à tout le monde, hein, Saint-Tropez. C'est pas la France d'en bas qui habite là-bas, en région Servat.
Pas vraiment, mais les mariages de Barclay, c'est 7 maintenant. Maintenant, c'est plus 5.
Ah oui, mais c'était en 75, ça.
Non, mais c'est pas de, non, je veux dire, il y a effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent du prix de l'augmentation du kilo du sucre roux à Saint-Tropez, hein. Je veux dire, les gens ont beaucoup d'argent, les gens s'amusent, mais bon, la configuration est faite telle que, encore que dans les campings de Saint-Tropez, il y a beaucoup de gens, et tout au long sur le port, on voit aussi des gens qui s'amusent avec des glaces, mais si vous vous amusez à monter dans le parc de Saint-Tropez ou dans les jolies maisons tout autour, vous avez des gens aussi bien que Elton John, George Michael qui habitent là-bas, et le prix des maisons y est cher, mais bon. Ça, c'est...
La France d'en bas, elle vient plutôt, elle, pour justement visiter le village, hein, devant des yachts qu'elle pourra jamais s'offrir. Il y a 8 millions de touristes par an pour une ville un village de 5000 habitants.
Un chef-lieu de canton de 5000 habitants. Mais vous savez, Saint-Tropez, si on ne comprend pas Saint-Tropez si on ne se dit pas, une fois pour toutes, qu'on est dans la civilisation de la volupté de paraître. Quand vous voyez les gens qui sont installés à la terrasse arrière de leur yacht et qui boivent ou qui sirotent des whisky pendant que d'autres les regardent, on vient chercher quoi à Saint-Tropez ? Ce qui attire à Saint-Tropez cette fameuse réputation scandaleuse et capiteuse que Bardot a donné par son film, par la vie privée assez agitée qu'elle avait à l'époque, une espèce d'odeur de soufre. C'est Saint-Tropez, c'est le péché. C'était, vous savez, quand il y a eu une exposition universelle à Bruxelles en 60, ils avaient mis pour symboliser la luxure des photos de Saint-Tropez, c'est-à-dire les sept péchés capitaux. C'était Saint-Tropez qui était la capitale de tous les péchés du monde. Et ça, dans l'esprit des gens, ça traîne. On va là-bas pour trouver un fiancé, des relations un peu faciles, faire les fous, faire une fumette de marijuana, danser jusqu'à 5h du matin, boire du champagne sur les tables, s'asperger. Alors qu'en fait, c'est pas que ça, Saint-Tropez. Bien sûr qu'il y a cet aspect-là. Mais beaucoup de gens, ils viennent attirés par l'espoir de la débauche. La débauche, je me comprends. L'espoir de la galipette, disons.
En tout cas, ça n'a pas découragé Juliette Gréco de rester à Saint-Tropez, hein, qu'elle avait connue avec Boris Vian il y a plus de 50 ans. Juliette Gréco, qu'on écoute dans l'extrait d'un documentaire diffusé sur Arte la semaine dernière.
Les quelques touristes, quelques-uns, viennent pour voir ce qui a été. Mais ce qui a été n'est plus. Il y a autre chose à découvrir, certainement. Mais c'est pas pareil, mais j'aime ça quand même. Il y a un attrait, il y a quelque chose qui se passe. J'aime ça. Même si c'est encombré par des figurants qui n'appartiennent pas au film. Mais c'est pas grave. Il faut bien que les gens vivent aussi. Ils ont envie de voir, et ben c'est très bien. Nous aussi, on avait envie de voir. On avait la chance que ce soit vierge. Ce n'est plus vierge. Mais c'est beau. C'est beau.
C'est Juliette Gréco, hein, dans un documentaire d'Arte. Alors, elle est moins amère que Brigitte Bardot, qui n'a pas, on le sait, toujours le sens des nuances, et qui écrit dans la préface de votre livre, je la cite, « C'est l'arrivée massive d'un public alléché par le fruit défendu qui fit tout basculer. Que de chefs-d'œuvre périr au nom de la démocratisation. » Alors ça veut dire, en gros, laissez-nous tranquilles entre privilégiés, Henri-Jean Servat.
Mais c'est-à-dire que, pour bien comprendre Brigitte, et je m'autorise à le dire parce que je suis ami avec elle et elle m'a reçu, hébergé et nourri à la Madrague, donc je ne vais pas participer à l'hystérie contre elle. Mais Bardot, il faut comprendre qu'elle vit dans un système particulier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû faire élever des murs dans la mer pour se protéger, et même maintenant, 30 ans après son retrait du cinéma, il y a des gens qui campent devant le portail bleu de la Madrague, et la villa est cernée par les appareils, par les touristes, par des paparazzis encore. Vous savez, elle a dû...
Elle est victime, au fond, d'un succès qu'elle a provoqué aussi.
Elle est victime,
d'un succès
qu'elle a provoqué.
C'est un peu l'arroseuse arrosée, quand même.
Bien sûr, mais enfin, elle était là, si vous voulez, elle cherchait pas forcément à attirer l'attention des gens de cette façon-là. Donc, je voulais expliquer, c'est quand elle a une vision, disons, pas aigre, je veux, aigre n'est pas le mot, mais quand elle a une vision vis-à-vis de l'humanité amère, voilà, du monde et des touristes, et quand elle dit que Saint-Tropez a été envahi, pollué, sali et souillé, elle parle surtout, elle parle de ce qu'elle connaît, elle, puisque elle n'est pas allée sur le port depuis 15 ou 18 ans, Brigitte. Ah oui, elle n'est pas allée sur le port depuis 18 ans, elle n'a pas été acheter son journal, elle ne peut pas. Ce serait une hystérie totale, je veux dire, maintenant encore plus que les années précédentes, hein. Donc, je veux dire, c'est pour expliquer son point de vue, qui est le point de vue de quelqu'un qui vit retiré dans sa maison, alors que moi je trouve que c'est l'un des plus beaux lieux du monde, Saint-Tropez, et elle n'en profite pas, elle ne peut pas y aller parce qu'elle est cernée, barricadée chez elle. Alors, est-ce qu'elle a raison d'y rester? Ça, c'est personnel, celle que ça regarde. Mais cette vision du monde qu'elle a, les touristes lui ont gâché personnellement sa vie là-bas.
Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu, de vedettes de Saint-Tropez, oui, hein, du Saint-Tropez des années 60, qui ont voulu partir aussi.
Mais il y en a beaucoup qui ont voulu partir. Il y en a aussi beaucoup qui sont restés. Et rien ne m'énerve plus quand on voit dans ces magazines de presse, et encore moi je travaille dans un, mais qui passent leur temps à étaler sur des photos couleurs, vous savez, ou les gros bœufs, ou les footballeurs, ou les lofters qui traînent sur le port, alors qu'en fait, Saint-Tropez, c'est pas ça, ce n'est pas que ça du moins.
Et ça va durer longtemps, vous croyez?
Oui, bah parce que je veux dire, parce que c'est un côté foire à neuneux, foire du trône, dont il y a des gens qui vont. Oui. Mais je veux dire, il y a aussi un lieu où souffle l'esprit, il y a un musée à l'Annonciade, il y a des gens délicieux qui font des soirées grandioses et chic et élégantes dans lesquelles on parle de littérature. Il n'y a pas que des gens qui bouffent de la glace en se tapant sur les fesses dans des gros maillots de bain hideux, fluo, rose et jaune sur le port. Il n'y a pas que ça.
Pour ça que vous y allez tous les ans.
Il n'y a pas que ça.
Pour
voilà.
Ça que vous y allez tous les ans.
Mais oui, mais je vais pas pouvoir. Je vais pour autre chose.
En tout cas, merci beaucoup, Henri Jean Servat, de nous avoir rappelé cette
endroit,
histoire.
Hein. Endroit.
Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de La Légende de Saint-Tropez, un très joli livre publié aux éditions Assouline. À lire également Saint-Tropez, le pays des morts, un guide Hachette de Michel Goujon. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le gendarme de Saint-Tropez, distribué en cassette par SNC, et Dieu créa la femme de Vadine, distribué par RCV, Saint-Tropez, devoir de vacances de Paul Paviot, avec un commentaire de Boris Vian lu par Daniel Gélin, qu'on a entendu au tout début de l'émission. Enfin, l'interview de Juliette Gréco, qui était tirée de Il était une fois Saint-Tropez, un excellent documentaire de Bernard Martineau, diffusé sur Arte le 22 juin dernier, et qui sera rediffusé dans la nuit du 4 au 5 juillet à 0h50. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Pauline Bougon et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Et puis c'était d'ailleurs la dernière émission de la saison avant la grille d'été de France Inter. À partir de lundi prochain, de 14 à 16 heures, vous pourrez entendre C'est comme à la radio de Mathieu Vidard, mais vous pourrez aussi retrouver 2000 ans d'histoire à partir du 14 juillet, tous les jours de la semaine, non pas à 14 heures, mais à 13h30, juste après le journal. Bonnes vacances à tous, à Saint-Tropez ou ailleurs, et puis bonnes vacances.